Renault.
L'autre jour, un chef d'atelier Renault me demande « Monsieur José, vous pourriez nous aider à recruter pour le service après-vente » Et le voilà qui me parle de ses métiers de plus en plus technologiques, avec des formations régulières, bref, le gars passionné. Moi je dis, il ferait mieux de parler à ma place.
Les ateliers Renault Car Service recrutent des mécaniciens, électromécaniciens et carrossiers, débutants ou confirmés. Postulez sur recrutement-réseau.renault.fr. Renault Car Service, numéro 1 du SAV 2024. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault? Source l'Automobile Magazine 2023.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Bonjour à tous. C'est parti pour les GG, pour les grandes gueules. Heureux de vous retrouver comme tous les jours entre 9h et midi. 3 heures à passer ensemble, à discuter de ce qui fait l'actualité, ce qui fait notre société, notre vie de tous les jours. Bonjour Olivier.
Salut Alain, bonjour les grandes gueules, bonjour à tous. Salut les tracteurs à Paris.
Aujourd'hui à côté de toi, on va en parler, Thomas Porcher, professeur d'économie. Bonjour Thomas.
Salut à tous.
Nous sommes avec Joël Dagosséry, coach de vie. Bonjour Joël.
Bonjour à tous.
Et puis Didier Giraud, notre agriculteur de Saône-et-Loire qui vient de croiser ses potes là sur les tracteurs. Bonjour Didier.
Bonjour à la France profonde.
Oui, aujourd'hui la France profonde est à la capitale.
Ils sont passés juste devant RMC, là, les tracteurs. Et t'as été les salués, ils t'ont reconnu.
Oui, un peu quand même.
Un petit peu connu dans le milieu. On voit les vidéos sur RMC Story.
Oui, un joli petit convoi. Oui. Ils annoncent 500 tracteurs. C'est pas rien, 500 tracteurs qui sont à la queue leu-leu dans les rues de la capitale. Ah, c'est plutôt des gens du bassin parisien. J'ai croisé quelques Normands, plutôt de l'Eure, l'Eure-et-Loire, et puis.
Mais pourquoi ils sont là?
C'est un parisien. Alors, ils sont là surtout pour protester contre l'abandon de certaines filières. Et enfin, c'est quelque chose que j'ai souvent énoncé. Quand t'enlèves un produit de traitement pour des raisons X ou Y, tu peux faire tomber toute une filière. Voilà. Et c'est le cas aujourd'hui sur la filière betterave à sucre.
Avec les néonicotinoïdes.
Et on en parlera tout à l'heure à 10h.
Bien réussi ton totem d'immunité.
On s'est entraîné ce matin. Attention, on dit néonicotinoïdes.
Les néonicotinoïdes.
Ah, bravo.
J'ai répété depuis hier. Comme je vais comprendre ce sujet.
Vas-y, Joël.
Néonicotinoïdes.
Tout le monde y arrive. C'est très simple. En fait.
Oui, c'est très, très simple.
Néonicotinoïdes.
L'économiste est plus accrocheur.
Alors, en fait, on interdit les néonicotinoïdes au nom du respect de la biodiversité. Les agriculteurs disent on est en train de casser une filière. Choisissez votre camp, on en parlera tout à l'heure à 10h dans les GG, dans les grandes gueules. Est-ce que vous soutenez les agriculteurs, oui ou non, dans cette contestation de la décision européenne? 32-16 pour en parler avec les GG, avec les grandes gueules. Avant de nous lancer dans notre premier sujet sur ce mouvement, peut-être, qui s'essouffle de contestation de la réforme des retraites, là encore au 32-16, les amis, il faut que je vous parle de football. Et pas de n'importe quel match. Je vous offre des places, les toutes dernières places pour le choc PSG Bayern, mardi prochain au Parc des Princes. Oh. Restez bien à l'écoute des GG. C'est la Ligue des.
Oui, mais il faut faire un choix dans la vie.
C'est la Ligue des Champions.
L'amour ou le foot?
Oui, c'est le soir de la Saint-Valentin. C'est la Ligue des Champions. PSG Bayern, dès que vous entendrez ceci. C'est l'hymne de la Ligue des Champions. Eh bien, il faudra m'envoyer foot par SMS au 732-16. Foot par SMS au 732-16. C'est limité à 3 SMS par personne. 75 centimes d'euros le SMS.
Et si vous gagnez, vous vous démerdez avec votre amoureuse ou votre amoureux. Hein, parce qu'il faut
y aller à deux.
Bah, c'est une place.
Bah, Doc Gynéco disait dans une chanson « Relation sexuelle rime avec victoire ». En parlant du foot.
Ah bah voilà.
Ah, vas-y.
Donc on va voir le match et ensuite on est heureux.
Bien sûr.
Tu vas voir le match, tu t'emballes, tu vois le Paris Saint-Germain gagner et puis tu rentres à la maison et là.
Bon l'amour vu par un
d'artifice
d'un économiste.
Madame Dordéja. Il faut la réveiller.
Donc Saint-Valentin c'est mort si tu veux. C'est ça que ça veut dire.
C'est un choix.
Vous envoyez foot par SMS au 732-16 dès que vous entendez l'hymne de la Ligue des Champions, ça peut tomber à n'importe quel moment. Donc restez bien à l'écoute d'RMC, DGG en particulier. La contestation de la réforme des retraites, est-ce que vous pensez que ça s'essouffle? On en parle avec vous au 32-16.
RMC, les grandes gueules.
Fatigué du mensonge et de la vérité.
Alors, les amis, hier, c'était la troisième journée de manifestation. Combien de gens ont défilé partout en France?
Moins.
Oui, moins, effectivement. Moins de grévistes aussi dans les secteurs d'activité. Donc, est-ce que ça veut dire que la mobilisation commence à marquer le pas? Venez en parler avec nous.
Bah, les chiffres le disent, hein, puisque si on prend ceux du ministère de l'Intérieur, 757 000 personnes ont manifesté partout en France hier contre la réforme des retraites. Ils étaient le 19 janvier 1,12 million et 1,272 million le 31 janvier. Donc, cette mobilisation, elle marque le pas. Et quand on regarde le taux de grévistes, notamment à la SNCF ou l'Éducation nationale, eh bien, là aussi, c'est en net recul. Donc on voit bien qu'il y a un essoufflement du mouvement. La journée de samedi, celle qui arrive, sera décisive. D'ailleurs, les syndicats disent « Attendez, cette semaine, il faudra additionner les chiffres de mardi, donc d'hier, et avec ceux de samedi. » Bon, néanmoins, c'est vrai que samedi, ça sera décisif. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un petit essoufflement? Est-ce que le gouvernement n'est pas en train de gagner la partie?
Thomas?
Non mais c'était prévisible. On vit dans quelle situation on vit là? Il y a une baisse du pouvoir d'achat comme il n'y a jamais eu, je crois, depuis une trentaine d'années. Ils pensaient, les mecs, qu'ils allaient faire la même grève que 95, qu'ils allaient se passer d'un salaire pendant 15 jours. C'est pas possible. Donc là, ils font une grève, deux grèves, ils perdent deux jours de salaire. Là, ils vont pas perdre 3, 4, 5, c'est très difficile. Donc c'était le gouvernement avait parié sur ça. Il avait parié au départ sur la résignation, en se disant les gens vont pas sortir, vont pas perdre une journée de travail. Parce que là, à part distribuer des chèques où il faut rentrer en ligne son nom, etc. Enfin, tous les obstacles pour toucher un espèce de truc carburant, enfin les gens allaient perdre du pouvoir d'achat. Donc ils ont parié sur la résignation. Ça n'a pas fonctionné la première, la deuxième, la troisième fois, c'est sûr que ça s'affaisse un petit peu. Et puis après, il y a aussi tous les aspects externes, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui soutiennent le mouvement, mais l'école va être fermée, la classe de leur enfant va être fermée, ils vont pas aller manifester avec leur enfant à 0 degré sur 3 kilomètres, donc ils gardent leur enfant, mais ils soutiennent le mouvement. Donc les chiffres, c'était sûr que ça allait baisser avec cette histoire de pouvoir d'achat, et puis avec le contexte global, mais le soutien à la grève et le soutien à
donc ça peut repartir sur toi samedi par exemple, ça va repartir
toujours aussi haut.
Il y aura plus de monde samedi.
Il y a même, j'ai vu ce matin dans un sondage, il y a quand même toujours 60% des gens qui pensent que le blocage est justifié, un blocage.
Oui, mais pour l'instant, bloquer, ça veut dire se mettre en grève plusieurs jours de suite.
Bah, oui, mais
je crois que ce qui est en train de se passer, c'était couru d'avance à cause. Enfin, ça peut s'expliquer de la part des syndicats d'avoir choisi de faire une grève comme ça, étalée sur le temps, parce que les gens, ils sont pas prêts à bloquer de façon illimitée à cause du pouvoir d'achat.
Quand tu
démarres une grève et que tu dis c'est un jour cette semaine, un jour la semaine prochaine, t'as forcément un effet limité par rapport à un blocage. Enfin, on l'a bien vu, hein. Quand les mecs des raffineries, ils ont bloqué, là.
Ils bloquent, là.
Au bout de trois jours, t'as plus de carburant. Là, attention, dans 60% des stations en France, là, t'as un vrai effet.
Les raffineries, il faudra surveiller parce que là, c'est reconductible, là.
C'est encore bloqué
aujourd'hui.
Ce que je veux dire, c'est que dans le mode de grève, alors, c'est complètement déconnecté de ce que je pense des grévistes, mais dans le mode de grève et la façon de faire la grève, le fait d'être en illimité, ça a une incidence, ça a un poids sur le gouvernement qui est différent de ce qu'ils font. Après, moi, j'attends quand même, parce que c'était malin de dire on en fait une aussi un samedi, sans blocage, juste la démonstration de force et voir si les gens sont capables de venir en famille, en nombre, et je trouve que de la part des syndicats, quand t'es dans une intersyndicale où faut ménager la chèvre et le chou, c'est plutôt malin d'avoir programmé un samedi. Je crois pas qu'on va être dans des chiffres records samedi. En train de s'essouffler quand même.
Ah ouais, même samedi, on va le voir.
Moi, je pense absolument comme Thomas. Je crois que c'est le pouvoir d'achat qui s'essouffle en réalité. Et il faut pas se bercer d'illusions. Enfin, en tout cas, il faut pas que le gouvernement se berce d'illusions. Peut-être que la mobilisation en termes de présence dans la rue s'essouffle naturellement parce que quand tu peux plus payer ta facture ou quoi que ce soit, tu reviens à la réalité, donc tu vas au travail, peut-être le cœur lourd, mais tu y vas. Mais il faut pas se bercer d'illusions. Je pense que l'opinion sur les retraites ne s'essouffle absolument pas. Je pense qu'elle est bien ancrée. Et je ne crois absolument. Enfin, si le gouvernement pense se baser sur les chiffres et regarde par la fenêtre combien il y a de personnes en bas de la fenêtre qui passent dans la rue ou dans l'avenue des Champs-Élysées. Enfin, je veux dire, c'est pas un baromètre, c'est pas mesurable comme ça. Je crois que l'opinion est ancrée, mais en tout cas une bonne partie de la population est contre cette réforme. Donc, ils vont sûrement la faire passer, il n'y a pas de souci, mais je veux dire, faut pas qu'ils se bercent d'illusions et qu'ils regardent et qu'ils disent, ah oui, on en a trois de moins, on a quatre de moins aujourd'hui, donc c'est bon.
T'es en train de dire quand même que le gouvernement est en train de gagner, donc ça sert à rien d'aller dans la
Mais ils gagnent pas, ils ont sorti des trucs quand même. Une fois, à un moment, il y a un mec, un membre du gouvernement qui a dit oui, 1 million de personnes dans la rue, c'est rien, il y a 70 millions de Français. Enfin, fallait sortir celle-là. Non, mais il y a une réalité qui fait que les gens peuvent pas aller manifester comme ça.
Donc, la question est de savoir, est-ce que c'est efficace d'aller manifester une ou deux fois par semaine? Et je trouve que Laurent Berger disait quelque chose d'assez juste ce matin chez Apolline de Malherbe. Il faisait constater quand même que les Gilets jaunes, qui n'ont jamais été plus de 270 000 dans la rue, en plus fort de leur mobilisation, ont obtenu gain de cause parce qu'il y a eu de la casse et de la violence. Ouais. Là, ce sont quand même des gens qui se mobilisent chaque semaine, environ 1 million. Alors là, un peu moins hier, mais quand même, il y a déjà eu beaucoup de mobilisation. Dans le calme, c'est pacifique, il y a très peu d'incidents. Et finalement, le gouvernement va tenir.
Le gouvernement cherche quoi là? Justement, parce que là, ça se passe très bien. C'est encadré par les syndicats. Tout se passe très bien. Il y a eu quand même beaucoup de gens à la première manifestation. Ils reculent pas, ils continuent d'avancer. Donc il veut quoi? Il veut justement qu'il y ait des agrégations collectives justement. Comme ça, et que ce soit un truc vaporeux qui frappe. Non mais c'est ça, on a l'impression qu'il cherche ça.
Parce que sinon il se fait bon.
Joël.
Non mais il faut dire la vérité. Enfin, je veux dire, on peut avoir 15 millions de personnes dans la rue. Si ceux qui bloquent ne bloquent pas, quand je dis ceux qui bloquent, c'est les transports, par exemple, si c'est pas totalement bloqué, il y a aucune
sinon
chance.
Il faut dire la vérité.
Non, mais c'est la vérité. Je veux dire, on peut être tous dans la rue.
Tu bloques l'économie, tu n'arranges pas le pouvoir d'achat des Français.
Non, mais je suis pas du tout pour les blocages. Je dis juste que la logique aujourd'hui et depuis des années, c'est un vrai blocage, un résultat. De la violence, du résultat. Donc, si
mais
gouvernement...
ça dit quelque chose de notre démocratie, c'est-à-dire qu'il faut bloquer ce qui est illégal, il faut de la violence qui est illégale pour faire plier un gouvernement.
Mais parce que à un moment, la démocratie, c'est aussi des votes. Tu vois, enfin, je veux dire, faut revenir aussi à ça, c'est aussi des votes.
Et c'est le Parlement.
Et voilà, exactement. Et le gouvernement, quoi qu'on en dise, il a été élu sur un programme. Et il se sent légitime à faire passer son programme. Donc,
pas que sur un programme. Je crois aussi que
pas
dans...
que sur un programme. Non, mais j'entends bien. Il y avait aussi Marine Le Pen en face, etc.
Bah, voilà, il joue beaucoup avec ça depuis.
Oui,
depuis
mais il y a eu les législatives.
Oui, tout à fait.
Je crois aussi que dans les gens qui ne vont pas manifester parce qu'il y a le pouvoir d'achat, parce que tout ce que vous avez bien décrit, tu l'as dit, Joël, il y a une majorité de gens qui ne soutiennent pas la réforme. Ces gens-là sont quand même en attente de savoir ce qui va se passer à l'Assemblée nationale. Sur le dossier de la pénibilité, quoi. Il y a quand même une majorité silencieuse qui est plutôt contre la réforme parce que qui se dit, bah, nous, on est directement concernés, il faudra qu'on fasse 2 ans de plus. Comment on va être traité dans notre corps de métier? Comment on va être traité par rapport à la pénibilité?
Ça sera pas géré à l'Assemblée, ça sera géré après.
Mais j'en sais rien. Les gens ont quand même des vraies interrogations techniques de leur propre dossier.
Parce qu'ils veulent faire ça par branche, donc ça sera pas à l'Assemblée. Ils vont dire, ça sera maintenant après aux branches professionnelles de négocier.
De se démerder.
Attends, c'est ça. Reporter l'âge de départ à la retraite, ce n'est pas discutable. Le reste, ce sera discuté après. Donc voilà où est-ce qu'on en est. C'est ce qu'a dit la ministre. Elle a très bien dit, on discutera ça après. C'est-à-dire la pénibilité, on discutera après.
On va aller vite sur le temps imparti. Là, tu sais, cette procédure
ça va jusqu'à
accélérée.
Fin mars.
Non, mais c'est ça qui est dangereux. Au Sénat, ça reviendra après le Sénat.
Après le Sénat, on aura des
aménagements, des concessions. Sam veut en parler avec nous. Il nous appelle des Hauts-de-Seine. Bonjour, Sam.
Bonjour à tous.
Alors, Sam, est-ce qu'à votre avis, là, c'est en train de marquer le pas, la contestation de ces soufflets?
Non, du tout. Moi, je pense que c'est, comme vous l'avez dit, 3 journées de grève. Au bout d'un moment, ça commence à taper dans le portefeuille. Donc, les gens commencent à réfléchir. Et c'est une semaine particulière. Il y a une journée de grève un mardi et une autre prévue le samedi. Des grosses manifestations prévues le samedi. Je pense que avec la mobilisation après samedi, on pourra dire oui ou non, ça marque le pas.
Parce que la journée décisive, c'est samedi pour vous?
Pour moi, ça va être samedi. C'est là où on va voir si il y a vraiment du monde qui va descendre dans la rue. Moi non, parce que j'ai des obligations. C'est pas ça.
C'est mal barré.
Je suis indépendant, donc je suis obligé de gérer mon emploi du temps comme ça. Mais je la soutiens vraiment cette grève et les revendications. Parce que déjà.
Oui, mais attendez. Soutenir, c'est une chose, mais l'idée, c'est de faire masse dans la rue. Si vous-même vous dites, il y a 2 zones scolaires en vacances là ce week-end. Ouais. Les gens qui partent en vacances, ils n'iront pas manifester.
Oui, et puis même ceux qui ont les enfants ne vont pas manifester.
Oui, c'est ça, parce que moi, c'est plutôt une question de garde d'enfants.
Voilà.
On a les enfants. Mais c'est pour ça que s'ils se basent uniquement sur la grève et les manifestants, c'est compliqué.
Les sondages ne feront pas reculer le gouvernement. Les sondages, ils sont mauvais, de toute façon, ils le savent.
Mais ils le savent, mais la problématique, et ce qui arrive, et moi, je le vois arriver gros comme une maison, c'est que ça va se radicaliser et au bout d'un moment, il va y avoir de la casse et c'est là qu'ils vont céder. Parce que pour une fois qu'il y a des manifestations en masse, avec si peu de casse, parce que ça fait une dizaine d'années qu'à chaque fois qu'il y a des manifestations, ça part en cacahuète dans tous les sens, donc ils cèdent que face à la violence, face à ça. Là, il n'y a pas d'histoire de black bloc, il n'y a pas tout ça. Donc, ils attendent quoi? Que ça se radicalise, que les gens aillent moins dans la rue. Parce que ceux qui restent, au final, en règle générale, dans les manifestations, sur le long terme, c'est les plus radicalisés. Et au bout d'un moment, les plus radicalisés, ça commence à monter. Et s'ils sont soutenus en plus par la population, si ça commence à casser partout dans Paris et dans les petites villes, parce que là, il y a des manifestations quand même dans des petites villes.
On n'avait pas l'habitude de descendre dans la rue, effectivement.
C'est inédit. Dans des petites villes, des châteaux, etc., moi, j'ai pas entendu des manifestations.
À Guéret?
Voilà. Ouais. Même la ville du ministre du Travail.
Oui. Annonay, chez Monsieur Dussopt, petite ville dont il a été maire, oui.
Mais
c'est pas donné.
Voilà, donc à un moment donné, faut qu'ils se mettent à réfléchir, qu'ils se mettent autour de la table et qu'ils commencent à discuter, ou moins qu'il y ait des vrais débats.
Ouais.
Non, mais c'est vrai. En fait, il a raison, Sam. Là, c'est le gouvernement qui veut que ça monte d'un cran en violence. C'est ça qui est problématique. Parce que, qu'est-ce qui se passe là? Ça se passe très bien. Tous les sondages, tout le monde, on voit qu'il y a eu une convergence avec les marches et les sondages pour dire que la majorité des Français sont contre cette réforme. Et là, le gouvernement ne bouge pas. Il veut pas négocier. Donc il veut que ça monte en puissance.
Mais attendez,
la réalité, c'est quoi? Et là, tu l'as dit, Joël. C'est qu'en 95, pourquoi il a lâché Juppé? Oui. Pourquoi il a lâché? Parce qu'à un moment, le patronat lui a dit, lâche! Parce que là, la casse, l'impact économique est beaucoup trop fort.
Pas que ça.
Et donc là, il s'est dit, mais bien sûr, et c'est pareil pour les gilets jaunes.
Non, mais attends,
les gilets jaunes, c'était tous les samedis.
D'accord.
Il y avait de la casse. Et à un moment, tout le monde a dit, faut lâcher prise. Sauf et là, Macron, il a lâché 10 milliards.
Non, non. En 95, pourquoi il a lâché? En 95.
Il n'y avait plus de transport pendant un mois, toutes les PME ont été
D'accord, mais ça se décrète pas. Pardon, mais la CGT Transport, pourquoi elle ne fait pas grève tous les jours? Parce qu'elle ne peut pas. Parce que ni la CGT, ni Sudrail n'arrivent à mobiliser suffisamment pour faire grève tous les jours.
Tous les jours.
Donc c'est pas le gouvernement, c'est les syndicats.
Mais non, pourquoi ils n'arrivent pas à mobiliser d'après toi? Tu vois l'inflation quand même, le pouvoir d'achat.
Je pense pas. Je pense que leur grand combat à la CGT à Sudrail, c'était la réforme de la SNCF. Où là, il y a eu de grosses grèves, souvenez-vous.
Ouais, mais
c'était aussi sous Macron.
C'est et là, je pense que leader syndical, il faut choisir tes combats. Voilà, tu peux pas mettre les mecs partout tout le temps, quoi.
Enfin, surtout dans ce contexte.
Relisez Germinal, quoi. Avant de faire la grève, et si tu veux qu'elle réussisse, il faut commencer par constituer la caisse qui te permet de tenir pendant la grève, quoi. Et les syndicats, ils choisissent leur grève aujourd'hui parce qu'ils sont plus capables d'être partout tout le temps en masse et dans la longueur. Et on n'est plus du tout dans l'état d'esprit des salariés déjà de 95, quoi. Parce qu'en 95, le taux de syndiqué depuis, il a encore baissé. On n'est plus du tout là-dedans.
Bruno Poncet nous l'a dit. Il est chez Sudrail. Il nous a dit je ne crois pas à un mouvement dur à la SNCF.
Contrairement à Sam d'avoir été avec nous.
La grève perlée n'a aucun impact économique.
Dans un instant,
le gouvernement, ça passe.
On va continuer notre discussion, bien sûr. C'est Dominique qui sera en ligne avec nous. Il nous appelle de la Corse. Il est secrétaire juridique et il estime qu'il faut simplement aujourd'hui se rendre compte que si ça marque le pas, c'est tout simplement pour cause de pépette. C'est-à-dire que ça coûte cher de faire grève. On va continuer d'en discuter avec vous. Est-ce qu'à votre avis, le mouvement s'essouffle, oui ou non, en attendant la mobilisation peut-être de samedi? 32-16 pour discuter avec les GG, Joël Dagosséry, Thomas Porcher et Didier Giraud.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story avec vous au 32-16. Est-ce que le mouvement est en train de s'essouffler? Dominique veut en parler de Corse avec nous, puis dans un instant, on ira voir Enzo en Charente-Maritime. Dominique, bonjour.
Oui, bonjour les GG.
Qu'est-ce que vous en dites, monsieur Dominique? Oui, heureux de vous retrouver aussi, un fidèle des grandes gueules. Dites-nous tout, alors.
Ouais, ben de toute façon la mobilisation qu'elle soit un petit peu moins nombreuse pour hier, personnellement je suis pas surpris parce que ben comme vous l'avez dit depuis le début, clairement il y a quand même un problème d'argent qui se crée. Il y a aussi des impondérables par rapport au travail. Moi je prends simplement mon cas, moi je suis pas pour cette réforme des retraites, mais en tant que travailleur indépendant, si moi je pars manifester, je veux dire ça veut dire que mes clients sont pas satisfaits et puis vu que je me fais mon propre salaire par rapport à mes revenus, ben je suis un petit petit peu bloqué et je me pénalise moi-même en pénalisant personne d'autre. Voilà, déjà d'une part. Deuxièmement, une chose qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que si cette réforme est très très mal comprise par l'immense majorité des gens, c'est parce qu'elle n'est pas équitable dans la manière et l'effort qu'on demande. Je vais vous prendre un exemple très simple. On fait poser cette réforme sur le salariat et sur même les travailleurs indépendants, parce que nous aussi on va être impactés en tant que travailleurs indépendants. Mais quid éventuellement de la taxation qu'il pourrait y avoir sur les revenus du capital, je veux dire par rapport à l'actionnariat ou autre. On aurait mis en place un système qui aurait été, on va dire, de manière égalitaire et équitable.
Non, mais ce n'est pas le système par répartition, c'est autre chose.
On n'est pas dans le cas du système par répartition, je suis bien d'accord. Mais je veux dire, si on mettait en place cette taxation peut-être à hauteur de 1% sur les revenus par rapport à l'actionnariat ou autre, ça aurait permis justement de... Oui, mais les salariés sont déjà taxés aussi. Et à eux, on leur demande de faire un effort supplémentaire. Il faut que l'effort supplémentaire...
Oui, mais là, vous mélangez deux choses. C'est-à-dire qu'on ne demande pas aux salariés de cotiser davantage. On aurait pu leur demander. On leur demande de travailler plus. Les salariés ne vont pas être taxés davantage.
Oui, mais sauf que la différence, c'est que les salariés, on leur demande de faire ce qu'on appelle le fait de travailler en plus. Mais par contre, au niveau de l'actionnariat, vu qu'il n'y a pas la notion d'heure de travail qui est possible, donc à ce moment-là, autant la compenser par rapport aux revenus qui sont générés justement par le travail des salariés.
Ce n'est pas ce qui a été retenu, de toute façon, et ce n'est pas ça qui sera retenu.
Mais c'est ça le problème. C'est là où, à mon avis, le bât blesse. Parce que vouloir faire passer une réforme et vouloir faire faire un effort à tout le monde, ça va, mais il faut le faire de manière équitable. Si vous touchez qu'une partie, on va dire, de la population et qu'une partie donc des revenus de notre pays, automatiquement, la partie qui est touchée, elle se sent lésée. Et l'autre
Dominique, que la réforme serait mieux passée, qu'on aurait accepté même les 64 ans avec cette taxation, par exemple, du capital?
Moi, je vais vous dire clairement, cette réforme, déjà, à la base, elle est foirée d'entrée et elle est foireuse d'entrée. Et moi, honnêtement, en tant que travailleur indépendant, j'étais plutôt pour la réforme qui avait été, dans un premier temps, proposée par Emmanuel Macron lors de son premier quinquennat et qui, à mon avis, était, on va dire, plus équitable pour tout le monde et qui permettait véritablement de refonder complètement le système des retraites. Là, on est dans ce qu'on appelle du bricolage, simplement. Mais le problème, c'est que ce bricolage, on le demande pour le mettre en place à une partie de la population, mais pas à la totalité. Donc c'est pour ça que c'est mal compris.
Attendez, Dominique, parce que Joël Dagosséry voulait réagir à ce que vous disiez.
Oui, moi, je vois une évolution des esprits depuis plusieurs années. C'est qu'on pense que la politique, en fait, on doit tous être contents sur la politique, et qu'une réforme, on doit tous être contents, que chacun dans sa petite maison, on doit applaudir à une réforme. Mais c'est pas ça. Je m'excuse, et je suis pas forcément pour la réforme. Mais c'est pas ça. Là, ce qu'on veut maintenir, ce que le gouvernement cherche à maintenir, c'est un système. C'est un système. Et c'est pas à maintenir la condition de chacun. Donc, je suis désolée, Dominique, mais effectivement, vous êtes pas d'accord avec comment la réforme a été construite. Mais moi aussi, je suis pas tellement d'accord. Mais si on veut maintenir ce système, moi, je suis pas tellement pour maintenir ce système. Mais si on veut le maintenir, à ce moment-là, tout le monde sera pas content. Et je crois que la politique, c'est l'intérêt général. Chacun s'exprime pour expliquer pourquoi il n'est pas content pour lui. Mais ça, on va jamais faire de politique si c'est comme ça.
C'est là où, si je peux me permettre, vous n'avez pas écouté le début de mon intervention. Oui. Que je vous dis clairement que, de toute manière, le problème, on est dans le cadre d'une contestation par rapport à la réforme des retraites. Et on n'est pas dans le monde de oui-oui. On n'est pas en train de demander ce qu'on appelle une adhésion à 100%. Mais je pense sincèrement que s'il y avait une proportion plus équitable dans le terme de l'effort demandé par rapport aux différentes couches de l'économie française, ça passerait mieux.
On trouve toujours Dominique, c'est quand même une majorité des Français qui pensent que le système par répartition tel qu'il est aujourd'hui et vouloir le maintenir à tout prix, coûte que coûte, en faisant peser le poids truc que sur le salarié qui travaille, est un système qui est au bout.
Didier, moi je suis pas d'accord avec toi. Je pense qu'il n'y a aucun syndicat qui nous explique qu'il faut changer de système. Ils sont tous à dire que ce système est formidable et qu'il faut le sauvegarder.
Les syndicats, ils sont dans leur rôle, Olivier.
Non, moi parce qu'en fait, il y a deux choses. On peut être contre cette réforme parce qu'on n'a pas envie de travailler plus et qu'on estime qu'il n'y a pas besoin.
Parce qu'on n'a pas envie de travailler.
Il n'y a pas besoin de faire des économies, mais que le système est parfait. Et puis, on peut aussi être contre cette réforme en expliquant que le système par répartition, effectivement, atteint ses limites, qu'il faut inventer autre chose.
C'est ce que dit Dominique.
On peut être, par exemple, pour la capitalisation. Il y a des gens qui sont contre cette réforme parce qu'ils estiment qu'il faut mettre de la capitalisation. D'autres qui disent qu'il faut revenir à ce qu'avait voulu Macron, etc. Mais ça, les syndicats, ils sont pas
mais ils peuvent
ça.
Pas, puisque les syndicats, ils étaient vent debout.
Je remercie.
Au système par points, il y a 4 ans, ils étaient vent debout.
Non, pas la CFDT. C'est l'âge pivot qui ensuite a tout fait.
Ils peuvent pas revenir en arrière. Aujourd'hui, ils se rendent compte, les syndicats, qu'ils ont fait une connerie là-dessus. Ils ont fait une connerie. Parce que la première réforme Macron, elle était plutôt plus équitable que celle d'aujourd'hui.
Moi, j'en suis
l'âge pivot,
sans l'âge pivot. Mais moi, j'en suis persuadé.
En fait, il servait à quoi l'âge pivot? Il servait à refaire ses 10 milliards d'économies.
Dominique, merci d'avoir été avec nous, Dominique. À bientôt.
C'est une réforme pour la droite, d'ailleurs.
Pardon, à bientôt mais pour de nouvelles discussions.
Elisabeth Borne ne négocie pas avec Laurent Berger. Non. Elle négocie avec Éric Ciotti. Oui. C'est une réforme faite pour qu'elle passe grâce aux voix de la droite. Et c'est ce qui
donc ça veut dire que ce qui est en train de se passer dans la rue, tout le monde s'en fout.
Mais oui,
que ça
mais
passe
oui,
à l'Assemblée.
Le gouvernement, le problème du gouvernement, c'est pas les syndicats de salariés, c'est la droite.
Voilà. Oui, de toute façon, elle l'a dit, Elisabeth Borne. Pendant 4 mois, ils ont reçu les syndicats. Au bout d'un moment, tu vois que c'est plus possible d'avancer ou de négocier.
On siffle la fin de la récré.
Tu siffles la fin de la récré avec les syndicats.
Ils ont pas négocié.
Place au Parlement et tu regardes comment ça passe au Parlement.
Mais c'est ça la politique.
Mais c'est pas ça qui s'est passé. Ils le savaient avant. Macron, en 2000, quand il propose ça dans son programme, il sait déjà qu'il fera passer avec la droite.
Voilà.
Dès le mais début, oui, il sait très bien que Berger n'en voudra pas puisqu'il est contre les mesures, le recul d'âge. Ça s'est pas fait là. Ça s'est fait à l'élection présidentielle.
Et ça s'est fait ça s'est fait aussi pour draguer la droite.
Et bien sûr.
Pour tuer Pécresse et draguer
mais
la droite.
Avoir le vote utile de la droite.
Voilà.
C'est un calcul politique pour gagner la présidentielle.
Merci à Dominique.
C'est déjà trop tard.
D'avoir été avec nous. Enzo, bonjour.
Ouais, bonjour les grandes gueules. Salut.
Bonjour
ça
Enzo.
Ça va Enzo? Enzo, un fidèle DGG, agriculteur du côté de la Charente-Maritime.
C'est
Enzo.
Ça.
Et si je me souviens bien, une particularité avec vous, Enzo, non?
Oui, une toute petite, on va dire.
Petite, c'est vous faites partie des groupes Black Bloc, non?
Ah bon, on va dire ça. On peut dire ça.
Ouais. Bah dis donc, bravo Enzo.
Et alors madame, excusez-moi, j'ai rien contre vous. Je vais juste finir mon intervention.
Allez-y Enzo.
Aujourd'hui. Nous, en tant qu'anciens membres de Black Bloc, donc je vous le dis tout de suite, hein, je suis anarchiste. Hein.
Ouais.
Donc moi, la politique, les syndicats, c'est quelque chose où ils ne me manipuleront pas. Parce qu'aujourd'hui, on voit que dans la rue, les syndicats montrent les gros muscles. Ouh là là, attention, c'est nous les plus forts, on met tout le monde dans la rue. Et moi, je vous tiens le pari qu'au bout des 50 jours, vous pourrez mettre 10 millions de personnes dans les rues de France. Elle passe. Elle passera, parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien en face d'eux qui les amène à l'épreuve physique, à l'épreuve de la tirelire. Tant qu'ils gagnent, ils jouent. Aujourd'hui, nous ne viendrons pas dans la rue. En tant que Black Bloc, on ne montera plus de Black Bloc. Et vous savez pourquoi?
Non.
Parce qu'au moment des Gilets jaunes, il y a eu des Black Blocs. On nous a traités de sauvageons, de gens qui cassaient les mouvements, qui cassaient les manifestations.
C'est un peu, non? C'est un peu ça?
Et attendez. Oui, tout à fait, Joël. Mais le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est... Faisons le bilan comptable. Les gilets jaunes ont eu quoi? Vous aurez quoi sur les retraites?
Les gilets jaunes, c'est exactement le montant que Macron va économiser sur les
retraites. En fait, vous êtes les mercenaires pour obtenir, c'est ça?
Ah, pas les mercenaires, excusez-moi.
Un peu quand même, Enzo.
Alors, je vais aller dans votre sens. Ok, d'accord. Nous sommes les mercenaires pour obtenir. Aujourd'hui, si demain, il n'y a pas ça, vous aurez quoi?
Oui, mais vous voyez, c'est très dangereux. On ne peut pas justifier la violence.
C'est plus vraiment la République.
Vous seriez un petit peu utile si on était dans un pays sans droit de vote, avec un dictateur à ce moment-là. Les Black Bloc, oui. On a besoin de gens qui viennent tout casser pour faire comprendre au gouvernement et à l'État qu'on n'est pas d'accord. Mais je suis désolée, la retraite, vous aviez plusieurs programmes qui proposaient différentes formes de retraite. Personne n'est allé voter. Donc à un moment, je m'excuse,
mais
vous n'avez aucune légitimité à venir casser et à nous dire que vous êtes la solution.
Mais répondez-moi, pourquoi personne ne va voter?
J'en y crois plus.
Vous avez voté, vous Enzo? Vous avez voté pour la retraite à 60?
Oui,
ah bon, c'est un anarchiste qui vote.
Oui, tout à fait, j'ai voté blanc. Oui. Vous savez pourquoi aujourd'hui? Vous savez pourquoi je suis anarchiste aujourd'hui?
Vous y croyez quand même
pas. Et pourquoi aujourd'hui c'est plus légitime pour moi les gens qui votent? Parce qu'aujourd'hui, les gens qui votent, ils estiment qu'en face d'eux, il y a des gens qui vont les représenter. Mais que dalle! Moi aujourd'hui, tout syndicat confondu, moi, la réforme des retraites, si demain elle passe, on va dire que la prochaine présidentielle, c'est dans 3 ans. Allez. 3 ans.
4 ans.
Quatre ans. Allez. Est-ce qu'aujourd'hui, on entend des futurs candidats dire, écoutez, la réforme des retraites va passer? Moi, dans 4 ans, Si je suis juif, je la fais péter.
Si, alors Olivier Faure, les socialistes le disent. Après, on n'est pas obligé de les croire. Parce qu'ils disent ça à chaque fois, mais ils reviennent pas. Par exemple, ils avaient dit ça pour la réforme Sarkozy sur les retraites, ils sont pas revenus.
Qui aujourd'hui des politiciens va se mouiller? Parce que c'est le moment là aujourd'hui de se mouiller. Mais qui va le faire?
Parce que vous voulez maintenir le système par répartition.
Il a raison. On sait très bien que si Marine Le Pen ou Mélenchon ou Olivier Faure sont les prochains locataires de l'Élysée, ils ne reviendront pas sur cette réforme.
Ils ne reviendront pas parce qu'il y a un système qui aussi par répartition et que pour le maintenir, on doit travailler plus longtemps.
Non mais Le Pen et Mélenchon n'ont jamais été encore au pouvoir. Mais le Parti Socialiste, il est vrai, quand il était au pouvoir, il a maintenu les réformes.
Tu crois que Mélenchon, s'il allait au pouvoir, il reviendrait sur cette réforme?
Il n'a jamais été au pouvoir.
C'est quelque chose qui agace les Français aussi dans la politique et dans l'abstention. C'est le fait que quand il y a de l'alternance, celui qui arrive, il passe 3 ans à détricoter. Non, moi je l'ai vu au niveau local, à la région, au département. Les mecs, ils passent 3 ans à détricoter.
Pas l'essentiel.
Pas au niveau
local.
Qu'est-ce que vous vouliez ajouter
sur la réforme de l'ordre?
Sarkozy, c'était les mêmes.
Là, je voulais dire, on passe pas notre temps à détricoter, c'est quand même majeur. On est d'accord. C'est pas une réformette, là. C'est quelque chose, c'est la vie des gens. Et aujourd'hui, moi, j'en entends pas se mouiller. Et c'est aujourd'hui qu'il faut se mouiller. Oui, c'est pas,
mais vous avez raison là-dessus, Enzo. On peut être d'accord là-dessus, Enzo.
Le problème, c'est la chose aujourd'hui, c'est que ce que moi je pense, on est des millions de gens à pas avoir été votés parce qu'on le pense aussi.
Merci, Enzo, d'avoir été avec nous. À bientôt, Enzo, pour de nouvelles discussions. Dans les GG.
Attendez, Enzo, vous êtes pour ou contre les néonicotinoïdes, pardon?
Il est contre.
Alors écoutez, moi, en tant qu'agriculteur, je suis, on va dire, pour et contre. Faut pas tout jeter, en fait, en somme. Parce que.
Attendez, faites pas la discussion maintenant, Enzo, parce qu'il vous a posé la question.
Non, mais c'est intéressant.
Ouais, mais on en parlera. Rappelez, Enzo.
L'utilisation, comment on l'applique et à quel moment on l'applique.
Ouais, ok. On en parlera tout à l'heure dans la deuxième partie.
Non, mais c'est un anarchiste qui est assez raisonné et pragmatique.
Oui, du coup, vous avez quitté les Black Blocs, vous faites plus d'action violente, Enzo.
Vous savez, pour moi, être anarchiste, c'est pas forcément être
déguisé. Vous êtes d'accord.
Tout péter, être
anarchiste. Non, mais Georges Brassens est anarchiste.
Et au Ferré. C'est une façon de penser, de réagir. Oui, oui. Effectivement, j'étais dans les Black Blocs et vous savez pourquoi? Parce qu'à un moment donné, quand il faut qu'en face ça bouge et qu'on voit qu'on se fout de la gueule. Excusez-moi, j'avais dit pas de gros mots, mais quand on se fout du peuple, parce que le peuple y croit et qu'en face il n'y a rien qui se passe, eh bien moi je vous dis que vous pouvez mettre 7 millions de personnes dans la rue, tous les syndicats qui sont en montrant les gros muscles, ils peuvent nous faire des appels du pied, les sauvageons ne viendra pas. Maintenant, expliquez aux gens, les syndicats, que maintenant, il va falloir y aller à la casse. Parce que ce que vous leur demandez d'aller dans la rue gentiment, ça ne va pas suffire.
Merci Enzo. Merci. À bientôt. Merci. Et bonne journée du côté de la Charente-Maritime.
Ce qui est terrible, c'est qu'il a raison en plus, Enzo.
Ce qui est terrible, c'est qu'il a raison, Enzo. Bah, le gouvernement n'écoute pas les marques.
Il a raison. Le fait qu'il ne se... Enfin,
oui, mais il ne faut pas justifier la violence, parce que derrière, quand tu as dit ça...
Il ne faut pas justifier la violence, mais les seules choses qu'on fait reculer Macron...
Ils ont été un peu violents.
Non, mais les seules choses qu'on fait reculer Macron depuis qu'il est élu, c'est quand même la violence. Je suis désolé. Et je veux pas la justifier.
Ça fait reculer tout le monde, la violence. Par moment, arrêtez de faire comme si Macron, il était exceptionnel. Enfin, c'est pas un dieu. La violence fait reculer n'importe qui. Donc, je suis désolée. Il n'est pas différent des autres. Donc, oui, il recule face à la violence. On va pas l'accuser de reculer à chaque fois face à la violence.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que le constat d'Enzo, il est terrible, mais il est tellement vrai qu'on
a posé la question.
Il a reculé, il n'y a pas de violence.
Est-ce que, selon vous, la contestation est déjà en train de s'essouffler? Oui ou non? On va regarder comment vous avez voté sur notre site internet, sur Twitter aussi. La contestation s'essouffle déjà. C'est un non. Non à 64%. Donc il y a une volonté pour ceux qui nous suivent de continuer le combat, comme disait l'autre. Dans un instant, avec les GG, avec Joël Dagoucéry, Thomas Porcher et Didier Giraud. Le on s'en fout pas avec notre productrice Anaïs Sens.
RMC. 9h midi. Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story, la semaine prochaine, mardi prochain, il y a un match de foot plutôt intéressant pour ceux qui aiment la Ligue des Champions, c'est Paris Saint-Germain, Bayern Munich. Les amis, on a une place pour vous, si vous voulez y assister, deux places même, Vous êtes très attentif à ce qui va se passer sur l'antenne d'RMC et des GG en particulier. Et dès que vous entendez ceci, ça peut tomber à n'importe quel moment. Vous aurez 5 minutes pour vous inscrire en envoyant foot par SMS au 732-16. Foot par SMS au 732-16. C'est 3 SMS limités par personne. 75 centimes d'euros le SMS. Et vous envoyez foot par SMS 732-16. À vous de jouer, à vous de gagner. Mais surtout, ayez bien l'oreille dès que vous entendez l'hymne de la Ligue des Champions. Ce sera le moment de jouer. Vous aurez 5 minutes, pas plus. Allez, on y va pour On s'en fout, on s'en fout pas.
RMC, les grandes gueules.
On s'en fout.
Je peux pas te dire à quel point je m'en fous.
Pardonnez-moi, mais je m'en fous.
Ou on s'en fout pas.
Avec notre productrice Anaïs Sainz. Bonjour Anaïs.
Bonjour les GG, bonjour à tous et les amis. D'abord le chiffre du jour, il est stratosphérique. Total Energy vient d'annoncer un bénéfice net record de 20,5 milliards de dollars.
Combien ?
Pour l'année 2022, soit le plus haut bénéfice jamais réalisé par le groupe pétrolier, un des meilleurs même de l'histoire du CAC 40. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Joël ? Didier ?
Ah non, on peut pas s'en foutre.
Et Thomas ?
On s'en fout pas.
Allez Thomas.
Non, on s'en fout pas parce qu'on sait très bien que ce bénéfice ne vient pas du travail. Il vient d'un élément que nous condamnons très fortement, qui est la guerre en Ukraine avec un grand pays pétrolier, un des premiers pays pétroliers, notamment la Russie. Donc c'est la spéculation qui a fait ce bénéfice extrêmement important.
C'est le cours de bourse aussi,
oui,
s'envole.
C'est le cours de bourse, mais c'est aussi un gros choc sur l'offre.
Ouais.
Vous savez, il y a eu la même chose dans les années 70 avec les chocs pétroliers, où des pays du Golfe notamment ont décidé de maîtriser leur offre de pétrole pour faire monter les prix du pétrole. Et les Américains, un pays extrêmement communiste, s'est dit oulala, on va taxer les profits imprévus de nos compagnies pétrolières parce qu'elles font du bénéf sur un événement que nous condamnons. Or nous, pays que l'on n'arrête pas de dire socialiste, communiste, eh ben on s'est dit, ah ben non, on ne va pas les taxer, c'est génial, il faut du bénéfice, nous devons être fiers, comme a dit Manigold. Puis après, il a fait sa pleureuse quelques mois après, parce qu'il n'était pas content.
Total communique, donc effectivement 20 milliards d'euros de net, de résultats nets, c'est un record absolu, mais ils disent qu'ils ont payé dans le monde 33 milliards d'euros d'impôts et de taxes.
Dans le monde.
Plus du double qu'en 2021. Bah oui, parce que Total. Oui, mais il faut être honnête. C'est une entreprise mondiale qui fait ses bénéfices ailleurs qu'en France, d'ailleurs. D'ailleurs, Total, je pense que si Total quittait la France, ça changerait peut-être pas grand chose sur le bénéfice. Non, mais c'est important de le dire, si on veut être honnête.
Bien sûr, parce que
c'est plus une entreprise mondiale que française aujourd'hui.
Oui, parce que pendant des années, ils n'ont pas payé d'impôts sur les sociétés. Attention, en France.
Puis maintenant, bah là, ils en payent 33 milliards quand même dans le monde.
Comme ils ont beaucoup de filiales à droite et à gauche, ils s'arrangent via des micmacs, à mon avis, pour payer une partie en France.
C'est quand même mieux d'avoir des entreprises qui payent. Parce que si personne ne paye des impôts, Thomas, c'est quoi ta société?
Non, c'est pas ça, mais vous savez, il y avait l'ancien patron, enfin le nouveau patron là, qui a succédé à M. de Margerie, quand il a pris le pouvoir, il a dit « je vais fermer une partie de mes filiales dans les paradis fiscaux ». Parce que il a dit ça, il en a fermé une partie. Il en reste encore. Il y a des fois, il faudrait s'interroger. Quand vous avez une filiale dans un paradis fiscal qui a pas de production pétrolière, qui a pas beaucoup de distribution, bah, qu'est-ce qu'une entreprise fout là-bas?
On continue.
Hein?
Oh GG, bah, dis donc, Thomas, t'es survolté. Bah, tiens, un autre survolté. Hier, Louis Boyard, à l'Assemblée nationale, le jeune député insoumis a accusé Gérald Darmanin de violence policière contre les lycéens. Échange très vif. Écoutez.
Je n'ai pas de leçon à recevoir d'un ministre qui instrumentalise la police à des fins politiques. Je n'ai pas de leçon à recevoir d'un ministre qui dit que la police n'a jamais tué alors que c'est un fait que la police tue. Je n'ai pas de leçon à recevoir d'un ministre qui dit qu'il n'y a pas de contrôle abusif en raison de la couleur de peau.
On avait bien compris le principe général de votre question qui n'était ni finalement sur les étudiants, sur les jeunes, mais qui vous permettait d'avoir sans doute pour vos réseaux sociaux les 15 secondes que m'ont dit Harold évoqué pour chacun d'entre nous. Oui, monsieur le député, vous êtes la caricature de ce que j'essaie de dénoncer dans Le Parisien, c'est la bordélisation du pays.
La charge de Louis Boyard contre Gérald Darmanin, est-ce qu'on s'en fout ou pas, Didier ?
Ah, mais on s'en fout pas parce que ça me fait rire.
Attends, Joël.
On s'en fout pas.
Et Thomas ?
On s'en fout.
Didier ?
On s'en fout pas parce que ça me fait rire, mais en même temps, ils sont tellement tous les deux dans leur propre caricature que c'en est risible. Enfin, moi, je pense qu'à la fin, on s'en fout quand même un peu des élucubrations de Louis Boyard à l'Assemblée nationale, quoi. Qu'est-ce que ce mec amène comme plus-value à l'Assemblée nationale? Rien! Il est nul! Il fait que de la com', quoi. Sur le fond, il change quoi? En quoi il change la vie des concitoyens qui l'ont élu dans sa circonscription? Mais rien! Il fait sa petite com' à lui pour exister.
Il a pas le pouvoir, déjà, à l'Assemblée nationale.
mais arrête, Alain, arrête. Ce gars-là, il ne sert à rien à l'Assemblée nationale. À la rigueur, il aurait loué l'Olympia pour faire un one-man show. Ça aurait peut-être été plus bénéfique pour ses électeurs.
Non, on s'en fout pas parce que j'ai été assez choquée de voir lui, Boyard, se rendre dans une fac. Donc,
Rennes 2.
C'était Rennes 2 pour aller encourager, si je peux dire ainsi, les étudiants à bloquer la fac. Je ne sais pas ce qu'un député fou dans une fac. Enfin, soit il est étudiant, soit il est encore étudiant ou syndicaliste étudiant, soit il est député. À un moment, faut choisir. Il faut s'asseoir dans sa place. Elle est là. Enfin, moi, je suis pas contre ce qu'il dit au ministre. Sa place est bien là. Par contre, sa place, c'est pas dans une fac avec d'autres étudiants. Voilà. Je trouve que ça, pour le coup, ce que dit Darmanin sur ce truc-là, oui, c'est le bordel.
GG, Le Bon Coin, Amazon, Vinted, les Français n'ont jamais autant acheté sur Internet. L'année dernière, on a dépensé 147 milliards d'euros sur le web, en hausse de 14% donc par rapport à 2021. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Joël?
Je suis dans la place. Et moi, je crois que c'est grâce à moi et tous mes achats.
Milliards, il y en a 140 pour
Joël. Non, on s'en fout pas.
Didier?
On s'en fout.
Thomas?
On s'en fout pas.
Joël?
Non, mais moi, j'achète.
Je suis dans le game, bébé.
Dans le game. Non, mais c'est vrai, parce que j'achète quasiment plus. En magasin.
Ah
ouais, oui. Vraiment, mais quasiment. Alors que
même les chaussures.
J'étais une adepte d'aller faire le lèche-vitrine, les magasins et tout. Et je le fais, mais sur mon écran, du coup, je n'achète quasiment. Même pour mes courses alimentaires, je ne me déplace.
Tu te fais livrer.
Et c'est un vrai problème. Je vois que je me sédentarise vraiment.
Bah, tu ne sors jamais de chez toi, en fait.
Mais ou presque. Ma fille me dit d'ailleurs, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Tu restes à la maison? Enfin, vrai. je travaille de la maison, en plus. Mais du coup, c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de Français. Mais avec le Covid, c'est venu. Pendant le Covid, en fait. Ouais. Et j'arrive pas à reprendre un rythme normal.
C'est vrai. En moyenne, un achat, une commande par semaine par Français.
Ouais.
C'est énorme. 3500 euros par an.
Oui, bah, ça fait de la société. Bah, ouais.
Moi, c'est.
Ça t'inquiète.
Enfin, je trouve que. Alors, ça m'inquiète. Il y a des bonnes choses. Par exemple, tout ce qui est la seconde main, le Vinted et tout, je trouve ça bien, même si parfois, si tu fais un Vinted avec un mec qui est allemand, enfin, alors là, c'est. Là, l'impact écologique.
Oui, c'est ça.
Voilà, l'impact carbone, c'est. Mais après, on voit que c'est quand même la fin d'un système, parce que toutes les grandes marques coulent les unes après les autres, là, les Koukaï, les machins.
L'habillement.
Très, très mal.
Ouais,
ouais. Et en même temps, c'est rassurant parce que je vois que les jeunes se dirigent beaucoup vers la seconde main. Et ça, je trouve ça très bien. Moi, j'ai une copine qui a ouvert une boutique de seconde main et je trouve ça très bien. Mais après, je trouve que...
Mais donc là, c'est une boutique physique.
Mais c'est ça qui est bien. C'est-à-dire que moi, dans ce qu'il y avait de sympathique dans le shopping, c'était le truc que tu faisais entre amis et que tu essayes, tu es quelqu'un qui te conseille. Moi, c'est ça que j'adorais. Le problème, c'est que voilà, si toutes les boutiques pouvaient être des boutiques comme celle de ma copine, où tu fais de la seconde main, où t'as quelqu'un qui te conseille sur les vêtements et tout.
Ah, il faudra quand même la première main.
Moi, j'ai quand même la sensation de pas vivre dans le même monde que vous.
Tout ce qui est en ligne, pour
c'est
moi,
un truc dingue,
te coupe en fait de la socialisation. Et depuis le Covid, moi, je peux plus ça.
Didier, t'as déjà acheté en ligne?
Écoute, moi, oui, ça m'arrive régulièrement d'abonder les caisses à Bruno Le Maire en ligne. Oui, ça, je paye mes impôts en ligne, mais après, concrètement, la chance
que tu fais en ligne, c'est payer tes impôts.
Quasiment. Ouais. Tu fais ma carte bleue en ligne, tu fais jamais mes impôts.
Jamais livrer un truc.
Non, vraiment, non.
Chaque fois, les chaussures.
Et j'ai vraiment un problème avec ça en plus. Moi, je les plateformes en ligne là, avec le répondeur qui te fait passer d'un truc à un répondeur. Taper un, taper deux, taper trois.
Non mais tu peux.
Non, mais c'est pas en ligne.
Ça, c'est téléphone, ça.
Oui, mais du coup, c'est le même système. Moi, j'ai besoin d'un contact physique. Déjà avoir quelqu'un au téléphone, déjà, ça me sort du monde, quoi.
Parce que contact humain.
En fait, c'est vraiment le contact humain,
c'est un acte d'achat.
Non, mais t'as plus de contact humain.
Tu dis même pas bonjour au livreur.
Quand tu vas dans des boutiques, quand tu vas pas dans des grandes enseignes qui produisent au Bangladesh et qui font de l'optimisation fiscale, quand tu vas dans des boutiques de mecs qui font des trucs sympathiques, moi j'en ai quelques-unes comme ça, bah t'essayes un truc, ça te va mal, tu ramènes, le mec y a pas de problème, même tu le réessayes chez toi, et puis même les mecs à la fin c'est y a un lien humain, il te dit prends le pantalon, essaye-le chez toi, regarde avec tes vêtements, tu me le ramènes si ça te convient pas, c'est très sympa. Non, t'auras jamais ce contact humain.
Non mais c'est pas vrai.
Non mais ce qui est drôle, c'est que Joël, la citadine, qui a des boutiques en bas de chez elle,
dans un bel arrondissement.
Oui, c'est vrai.
Je ne dirai pas lequel, mais c'est plutôt dans l'Ouest parisien, c'est le même d'ailleurs qu'à La Marchal.
C'est entre 15 et 17.
Voilà, c'est où ça bouge.
Là où ça bouge. Il y a une chanson des Inconnus dessus d'ailleurs.
Si t'as moins de 20 ans, tu dois sortir. Mais toi qui as des boutiques en bas de chez toi, tu n'y vas plus. Didier, qui est loin de tout, ne commande pas sur Internet. C'est intéressant.
Mais attends, parce que tu vois, tu disais qu'il n'y a plus de contact humain. Quelque part, physiquement, c'est vrai, mais il y a un service. Tu vois, il y a Aline, c'est le chatbot. elle te parle dès que tu rentres sur le site. Oh elle non, te dit, non, elle te dit bonjour Joël, qu'est-ce que je fais pour vous? Va chez Zara, tu vas voir les vendeuses, si elles disent bonjour, je veux, ouais, tu leur demandes un truc, une taille, je veux un 36, elles te regardent mal. Donc va voir.
Moi je pense que c'est une relation à l'achat qui est différente.
Dans un instant, avec les grandes gueules, on va s'intéresser à la colère des agriculteurs. Ils sont en tracteur sur Paris, ils disent laissez-nous utiliser les néonicotinoïdes. Est-ce qu'ils ont raison ou pas? Est-ce qu'on les soutient ou pas? On en parlera avec notre agriculteur de Saône-et-Loire, Didier Giraud, avec notre prof d'économie, Thomas Porcher, avec notre coach de vie, Joël Dagosséry, et surtout avec vous au 32-16.
RMC, jusqu'à midi, les grandes gueules.